Turning now to the Gospel of John, chapter 13 and verse 36.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 36. L'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant. » Mais tu me suivras dans la suite. » Et notre sujet est « Comment Christ affermit notre foi ?» Et nous en arrivons dans ce chapitre, comme vous le savez, à la nuit avant la croix du calvaire. Les disciples sont rassemblés dans la chambre haute. Et là, il y a ce discours dans la chambre haute. Le ministère public de notre Seigneur et Sauveur est fini et à présent, il instruit ses disciples avant de se laisser arrêter et crucifier à la croix du calvaire. Et son discours pour les disciples est là jusqu'à la fin du chapitre 17. Et ensuite, ils vont au Mont des Oliviers, au jardin de Gethsémané, etc. Mais ici, nous avons cette dernière prédication pour les disciples. Peut-être on est surpris par les versets à la fin du chapitre 14 qui disent « Levez-vous, partons d'ici !» Mais il semble que même si ils se sont levés, ils n'étaient plus inclinés pour prendre la Sainte Cène. Après la première partie de la prédication, les disciples se sont levés prêts à quitter la chambre haute pour aller vers le Mont des Oliviers, mais il semble qu'à ce moment-là, la prédication n'est pas finie et continue au chapitre 15, au chapitre 16 et finie avec la prière du chapitre 17. Imaginez la dernière prédication, la dernière instruction du Seigneur et à la fin, le Seigneur prie cette grande prière sacerdotale du chapitre 17. Et ensuite, ils sortent, ils partent. Certaines personnes pensent que les chapitres 15 et 16 ont été dits plus tôt dans la chambre haute. Mais Jean, avec une ou deux exceptions, est plutôt chronologique dans son récit. Et il nous dit cela. Ainsi, je pense qu'il est plus probable, mais nous ne pouvons pas en être entièrement sûrs, que la prédication suit l'ordre que nous avons des chapitres 13 au chapitre 17, avec cette grande prière sacerdotale. Et nous en revenons au chapitre 13 et au verset 36. Ici, nous voyons la petitesse et l'imperfection de la compréhension des disciples. Au verset 33, le Seigneur s'est adressé à eux comme mes petits-enfants. Et comme ceci est plein de tendresse, en même temps, d'une certaine manière, à ses yeux, ils étaient comme des enfants dans leur compréhension. Et sa dernière prédication, son instruction, doit les instruire pour que certaines choses essentielles soit clair pour eux avant qu'ils partent, qu'ils souffrent, qu'ils meurent et qu'ils ressuscitent des morts et qu'ils retournent au ciel. Parce que après cela, ce grand fardeau de la mission repose sur eux. Et voici leur limite ici, au verset 36, Simon-Pierre, et il représente tous les disciples, n'a pas encore compris que Christ va mourir. Peu de temps après, et encore moins, qu'il va mourir comme étant le sacrifice ultime pour le péché. Ainsi, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Alors que nous voyons ceci dans le récit des évangiles, Christ leur a dit trois fois clairement, très clairement, même avant qu'il n'aille à Jérusalem pour la dernière fois, il leur a dit, « Je vais être arrêté. Je vais être arrêté par des mains méchantes et crucifié et mis à mort. » Et ensuite, je vais ressusciter des morts. Au moins trois fois, si nous comprenons bien le récit des évangiles. Nous pourrions dire quatre fois, et certains disent même cinq fois, il leur a dit cela, mais d'une manière certaine, à trois occasions différentes, il leur a expliqué ces événements, mais ils n'ont pas compris. Ils l'aimaient tant, et ils avaient ces choses si fermement à leur esprit, ils pensaient qu'il allait être un messie terrestre, qu'il allait mettre en place un empire israélite terrestre, et eux allaient être ses ministres, que lui allait être le roi. C'est là ce qui était enseigné par les chefs des Juifs de manière très erronée à ce moment-là. Et ceci n'était pas en accord avec toutes les prophéties et l'enseignement de l'Ancien Testament. Cependant, c'était là ce qu'ils avaient à l'esprit. Et ils n'allaient pas abandonner cette idée facilement. « Où vas-tu ?» demande Pierre. Peut-être qu'il pensait qu'avec toute l'opposition contre lui, Christ allait quitter la Judée, la Galilée, et peut-être aller dans les pays païens et leur parler à eux. Peu importe ce qu'il pensait, « Où vas-tu ?» Et Jésus lui répondit d'une manière plutôt voilée à présent. « Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, en d'autres termes. » Même s'il parle à ce moment-là d'une manière plutôt voilée, « Je vais souffrir, je vais mourir. » Et ce n'est pas le moment pour toi de me suivre, pas encore. L'Église doit être établie d'abord. Les apôtres doivent d'abord avoir un ministère long sur cette terre pour représenter Christ avant de souffrir. Et Christ allait souffrir, et Pierre allait souffrir la crucifixion également. Il allait être un martyr aux mains des Romains plus tard. « Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant ?» Pierre n'a pas réalisé ce qu'il lui disait, « Mais tu me suivras dans la suite plus tard. » Mais au verset 37, Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?» Il parle ici d'aller dans un autre pays, dans un autre endroit, « Je donnerai ma vie pour toi. » C'est une déclaration extraordinaire, c'est la déclaration extraordinaire de Pierre. Mais Pierre ne se connaît pas lui-même, et de même pour les autres disciples. Même si ils étaient avec Christ pendant 3 ans, ils n'ont pas la foi pour donner leur vie pour lui. Dans quelques heures, ils allaient fuir. La possibilité d'être arrêtés et de souffrir, comme Christ a souffert, et ils avaient peur de cela, et Pierre allait le nier. Et c'est là ce que Christ lui dit. Au verset 38, Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point. Avant le matin même, tu m'auras renié 3 fois. » Et c'est là ce qui s'est passé. Je mentionne ces versets parce que ceci est un indice qui nous montre les limites des disciples à ce moment-là. Comment est-ce que Christ va les faire grandir et va affermir leur foi en quoi, 15 minutes, ce temps qu'il reste avant qu'ils ne sortent et avant les événements de Gethsémané et son arrestation? Combien de temps est-ce qu'il reste? Le chapitre 14, dans ce chapitre, comment il va les enseigner, les corriger, les aider? Et rapidement, c'est là le remède en 4 points pour transformer leur attitude et pour affermir leur foi. Et nous voyons ceci dans les premiers versets du chapitre 14. Et le premier point, c'est il va leur enseigner la nécessité absolue de la foi. Et ceci nous parle également, la nécessité absolue de la foi et de l'exercer. Au verset 1 du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point. » Ou, si nous suivons le sens et le temps de l'original grec, « Que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne soit plus troublé. » Ils sont attristés parce qu'ils pensent que Christ va partir. Oui, il va mourir, mais ils ne veulent pas comprendre cela, que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne soit plus troublé. Arrêtez cette attitude troublée, affligée. Est-ce que je ne suis pas Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est la première chose, la nécessité de la foi. Vous devez croire, vous devez avoir la foi. Est-ce que vous avez dit, « Oh, pasteur, ceci s'applique pour nous également. » Oui, nous avons cru. Imaginons que nous nous sommes confiés en Christ. Nous avons cru qu'il a souffert, qu'il est mort pour nous. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous sommes venus à lui dans la repentance. Mais c'est la première chose que nous avons besoin d'apprendre alors que nous continuons dans la vie chrétienne, même si nous sommes des vétérans dans la foi, des chrétiens depuis si longtemps. Exercer la foi. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Différents problèmes, différentes difficultés, différentes épreuves, parfois des doutes, parfois des grandes afflictions, des déceptions. Et nous commençons à réfléchir à ces choses. Peut-être nous sommes complètement déçus et nous avons cette pitié de nous-mêmes et nous n'exerçons pas la foi dans la providence de Dieu. Il connaît mes circonstances. Il sait ce qui se passe dans ma vie. Je crois en ses promesses, en sa bonté. Je vais me confier en lui. Je ne veux pas laisser ses doutes envahir ma vie et envahir mon esprit, ma pensée et régner sur moi et dominer sur moi pour me faire trébucher. Ceci est essentiel pour les disciples. Vos pensées, votre cœur, que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne soit plus troublé, c'est là le sens en grec. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ils doivent croire que Christ sait ce qu'il fait. Ils doivent croire littéralement dans les paroles qu'il leur a dites, qu'il va souffrir, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter et être assis à la droite du Père au ciel, et que ses disciples vont le représenter, que c'est là un salut spirituel. Le premier point, c'est l'exercice de la foi, la mise en pratique de la foi. Ces versets dans l'évangile de Jean sont si bien organisés dans ce chapitre. Jean a écrit, inspiré par l'Esprit de Dieu, mais j'aimerais expliquer cela pour comprendre le sens de ces versets. Ces versets sont organisés d'une manière logique. Ce qui s'est passé dans cette chambre haute, c'est que tout d'abord, Christ leur explique quatre choses essentielles, quatre exhortations, et l'une après l'autre, l'une qui rajoute quelque chose à l'autre. Et Jean écrit ceci, et vous pouvez voir ceci dans ces versets. Le premier point, c'est l'exercice de la foi. Le premier remède, c'est la foi qui doit être exercée. Il y a cette responsabilité de croire en Christ. Et au verset 10, voyez ceci qui est répété. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» C'est une question de foi au verset 11. « Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père. » Croyez-moi à cause de ces œuvres même, vous voyez les preuves. Et ce que vous avez vu, ce sont là des preuves. Et au verset 12, en vérité, je vous le dis, une déclaration solennelle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, etc. Ainsi, le premier remède contre les limites des disciples, c'est l'exercice de la foi. La foi doit toujours être exercée. Et ceci nous amène au deuxième point, le deuxième grand remède pour les disciples, ce qu'ils devaient savoir au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Le deuxième remède, c'est qu'ils doivent comprendre que sa mission a un objectif céleste. Il n'est pas venu pour établir un royaume juif sur cette terre, mais il est venu pour nous donner le ciel pour des milliers de pécheurs, pour des millions de pécheurs et peut-être même pour des milliards de pécheurs qui viennent à lui dans la repentance. Il est venu pour nous donner la vie éternelle, pour tant d'âmes perdues. Tout ceci parle d'éternité, ce grand objectif céleste. Le grand objectif de la foi chrétienne et de la vie chrétienne, c'est l'éternité. C'est l'éternité glorieuse avec Christ. Et à présent, Christ les amène à penser, à réfléchir à cela. Plus tôt, peu de temps avant, ils avaient ce débat parmi eux sur qui sera le plus grand dans la cour de Christ. Quand il sera roi, ils pensaient que tout ceci était terrestre. Non, ce n'est pas terrestre, c'est céleste. Je viens pour vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Comment est-ce que vous pouvez avoir des demeures dans une maison? Ceci n'a pas de sens. Et certaines des traductions modernes, mais pas toutes, essayent de résoudre ce problème en traduisant « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres ». En grec, c'est « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour y demeurer ». Et nos traducteurs ont compris ce que cela voulait dire quand ils interprètent ceci en disant « plusieurs demeures » ou « plusieurs villas ». Mais de traduire ceci comme une chambre, c'est sous-estimer le sens de ce verset. Dans la maison de mon Père. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit une maison? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas au ciel? Dans la gloire céleste, spacieuse. Non, il dit la maison. Parce que ceci indique que dans la gloire éternelle, même s'il y aura beaucoup d'espace, nous sommes une famille. Des millions et des millions de personnes sauvées par le Seigneur. Un jour dans la gloire, dans des corps glorifiés, en demeurant dans la gloire éternelle. Et cependant, ce terme « maison » nous rassemble. Il y aura une unité spirituelle extraordinaire. Nous sommes de la même famille et tous nous nous connaîtrons l'un l'autre. Et mieux que ceci, nous connaîtrons le Seigneur. Ainsi, c'est une maison pour donner l'impression de cette famille, même si c'est une grande maison. Et dans cette maison, il y a beaucoup d'endroits pour y demeurer. Ce terme « demeure » est bon parce que ce seront des demeures extraordinaires, merveilleuses. Mais nous parlons de choses spirituelles, bien sûr. Dans cette maison familiale si grande, par le nombre de personnes et dans l'espace, chaque personne aura la félicité éternelle et tant de connaissances, et la sainteté et la gloire, et l'accès au Sauveur, et des choses extraordinaires, et l'adoration du Seigneur. Et nous ne pouvons que décrire cette gloire, ce bonheur, cette félicité, cet accomplissement en termes de demeure. Non pas comme des chambres, des pièces, non, ce n'est pas suffisant. Mais ce sont là des demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vous avez là une révélation de la vérité par rapport à l'avenir. Il n'y aura pas de découverte choquante, surprenante, qu'il n'y a pas de place pour tous ceux qui sont sauvés. Non, ceci est impensable. Je vous enseigne toutes choses en vérité. Mais leur esprit doit être amené vers l'éternité. Les choses célestes, les choses présentes ne sont pas l'objectif, mais là, au ciel, c'est là l'objectif. Maintenant, c'est le moment de rassembler les élus de Dieu et ensuite, c'est l'accomplissement et la gloire céleste. Et au verset 3, « Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, le retour du Seigneur, et je vous prendrai avec moi. » Afin que où je serai, vous y soyez aussi. Et le point important ici, c'est que le centre du ciel, la grande attraction du ciel, la merveille du ciel, ce n'est pas l'endroit même, mais la personne du Seigneur, le Seigneur lui-même. afin que où je serai, vous y soyez aussi. Oui, bien sûr, ce sera glorieux, merveilleux, au-delà de ce que nous pouvons décrire dans notre langage humain. Mais c'est la présence du Seigneur qui sera tout pour nous. C'est là le deuxième grand point. Ils ont besoin de comprendre l'objectif céleste. Et nous en dirons plus par rapport à cela, alors que le récit continue. Et ôtez de votre esprit ces choses terrestres. Ma mission est céleste, mon but est céleste, ma cause est céleste. Et ensuite, le troisième grand remède. Pour les limites des disciples dans leur compréhension, c'est ceci. Ils ont besoin de comprendre son œuvre. Ils ne veulent pas comprendre qu'il va mourir, et encore moins pourquoi il va mourir. Ainsi, il leur explique, il leur donne une déclaration qui est là pour les faire réfléchir. Au verset 4, « Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » C'est là le problème, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils pensaient qu'il allait à un endroit et non pas à sa mort. Et c'est là une déclaration pour les faire réfléchir. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas, qui représente tous les disciples, lui dit au verset 5, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et voici ce troisième grand remède pour leurs limites. Au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est là ce qu'il devait savoir. Son œuvre, « Je suis le chemin. » Thomas, Pierre et vous tous les disciples, toute votre vie, vous pensiez que le chemin, c'est les sacrifices du temple, et vous avez amené vos sacrifices au moins une fois par an, peut-être trois fois par an, au temple, à Jérusalem. Et les sacrifices ont été offerts, ces symboles du pardon. Et dans votre cœur, vous avez mis votre péché sur l'offrande d'une certaine manière, et votre péché a été ôté. Mais vous savez que les sacrifices n'étaient qu'un symbole de quelque chose que Dieu allait faire et accomplir pour ôter le péché. Et moi, je suis le sacrifice. Jean-Baptiste leur a dit, 3 ans auparavant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ils ont oublié cela. « Je suis le chemin. » Les sacrifices ne sont pas le chemin. L'adoration du temple dans l'Ancien Testament, ce n'est que pour ce temps-là, ce n'est pas efficace en soi-même. Pour le pardon des péchés, c'est un symbole qui n'accomplit rien, qui n'ôte pas le péché en soi, qui ne pardonne pas à l'âme. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. À nouveau, ils n'ont pas compris ces paroles. Et il va leur expliquer encore plus alors qu'il continue dans son instruction. Mais c'est là le troisième besoin qu'ils ont de comprendre son œuvre, que lui accomplit les sacrifices, qu'il est le vrai sacrificateur, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le temple, si vous voulez. Le temple sera détruit. En 70 après Jésus-Christ sera détruit, et Christ leur a prédit cela, que le temple ne restera pas là, mais que son corps sera le temple, parce que lui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis le chemin, la vérité. Oui, bien sûr, Christ est la vérité. Il est la raison pour toute chose, il est la vérité. Derrière tous les symboles et les ombres de l'Ancien Testament, toutes ces choses pointent le doigt vers le Messie, vers Christ. Et c'est là ce qu'il dit aux disciples. Je suis la vérité, la réalité. Et tout ce que je vous dis est vrai. Et toute promesse que je vous fais, venez à moi pour le pardon, pour la vie. Je vais accomplir mes promesses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceci veut dire, vous avez besoin d'une vie nouvelle, comme il a expliqué à Nicodème au début même de l'évangile de Jean. Il faut que vous soyez né de nouveau, que votre esprit soit ramené à la vie, que vous soyez converti, que vous ayez cette relation avec Dieu pour être capable de le prier, de marcher avec lui. Je suis la source de cette vie nouvelle. Je suis le chemin, je vais souffrir, mourir pour les pécheurs. Je suis la vérité, l'accomplissement de toutes les promesses, de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et je suis la vie. Je vais vous donner la vie éternelle et vous amener en relation avec le Dieu vivant. Ainsi, les disciples avaient besoin de cela pour comprendre son œuvre. Et ensuite, il y a un quatrième point. Non seulement ils avaient besoin de comprendre son œuvre, mais également le Seigneur à présent déclare quelque chose qui est là pour faire réfléchir les disciples. Et la méthode est répétée au verset 7. « Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et les disciples étaient choqués, stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que cela ? Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et cette fois-ci, c'est Philippe qui pose la question, en représentant la pensée de tous les disciples. Au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Seigneur, montre-nous le Père, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Accorde-nous une théophanie, une apparition de Dieu le Père. » Si seulement nous pouvions voir le Père, alors nous serions satisfaits. Nous croirions tout de manière beaucoup plus profonde ce que tu nous dis. Ils n'ont pas compris entièrement que Christ était le Père parce qu'il est Dieu égal au Père. Ils n'ont pas compris qui est Christ. Il est une personne séparée du Père, entièrement distincte. Ils partagent la même essence divine, un seul Dieu en trois personnes, mais il est une personne distincte, extraordinaire dans la Trinité et partage les mêmes pensées, valeurs, connaissances avec le Père, mais ils n'ont pas compris cela. Ainsi, il leur dit, si vous m'aviez connu, ils n'avaient pas d'excuses. Ils ont vu ces miracles, ils ont vu son caractère sans péché, sans tâche. Ils ont réalisé qu'il connaissait toutes choses, qu'il pouvait lire leurs pensées, qu'il était tout-puissant, invincible. Et il s'est décrit comme étant le Fils de l'homme dans le livre de Daniel. C'est là un titre divin, c'est une description de Dieu. Et cependant, ils n'ont pas compris réellement qui il était. Ils ont dit, nous croyons que tu es le Fils de Dieu, mais d'une certaine manière, ils pensaient qu'il n'était pas entièrement Dieu. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et ce point important, ils doivent comprendre profondément sa divinité, qu'il est autant Dieu que le Père et le Saint-Esprit. Ainsi, la réponse de Christ au verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que tu n'as pas réfléchi? Est-ce que tu n'en as pas tiré la conclusion évidente? Est-ce que vous n'avez pas réfléchi? Est-ce que vous n'êtes pas émerveillé? Est-ce que vous n'avez pas réalisé votre privilège d'être les disciples de la deuxième personne de la Trinité? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Aussi Christ avait été uniquement un homme faillible. Alors, combien il aurait été attristé? Mais bien sûr, il est Dieu, il est parfait. Ainsi, Philippe est repris avec tant de patience extraordinaire Comment donc, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais, parce que le Père et moi, nous pensons exactement de la même manière. Le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Ils sont égaux, ils sont divins, différents et cependant, ils sont la même personne. Ils sont un. Au verset 11, « Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres même. Cela ne signifie pas « croyez en moi pour notre mission ». Mais sur la base des preuves, vous avez vu des œuvres merveilleuses. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Que pensez-vous? Vous avez réalisé, sans aucun doute, que c'est là une puissance divine. C'est là le besoin de réaliser non seulement son œuvre, mais qui il est, sa divinité, sa nature réelle. Et ensuite, s'ils peuvent comprendre ces choses, au verset 12, ils peuvent recevoir sa grande mission, sa tâche pour les envoyer dans la mission. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Ils peuvent recevoir cet appel, le grand appel pour faire l'œuvre de Christ à sa place. S'ils comprennent d'abord la nécessité de la foi, puis l'objectif divin qu'il est venu pour être un sauveur céleste, éternel, non pas un messie terrestre. Troisième point, s'ils peuvent réaliser son œuvre à la croix du calvaire, qui est l'accomplissement de tous les sacrifices de l'Ancien Testament, et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quatrième point, s'ils peuvent réaliser réellement qui il est, qu'il est Dieu, égal au Père, un membre de la Trinité éternelle. S'ils peuvent comprendre ces quatre choses, alors ils peuvent être utilisés par le Seigneur pour le représenter sur cette terre. Et de même pour nous, nous devons nous accrocher à ces quatre choses. Et les chapitres 15, 16 vont souligner ces grandes choses avant cette grande prière qui les appelle à son œuvre et à son ministère. Si en toute circonstance, en toute situation, nous pouvons réaliser la nécessité de la foi, d'exercer notre foi, de nous confier en lui, si nous pouvons comprendre l'objectif céleste. Il y a un certain temps, quand l'Évangile dans l'Est de l'Europe pouvait être proclamé de manière libre dans les années 1990, quand la persécution a pris fin dans l'ex-URSS et que le pays s'est ouvert, que les églises occidentales ont envoyé des fonds pour la mission, certaines églises, pas toutes, mais certaines églises, se sont construites des palais. Certaines églises, pas toutes, qui ont été construites dans l'Europe de l'Est, dans certaines capitales et d'autres endroits, par des gens qui ont souffert la persécution. Certaines églises étaient si belles, si grandes, comme des cathédrales baptistes, des endroits merveilleux, avec ces fonds de l'Occident. Oh, heureusement, ce n'était pas le cas de toutes les églises, mais certaines personnes ont dévié du chemin en pensant que l'impact de l'Église est sur cette terre. Ils voulaient faire toute chose de manière belle, quelque chose de spectaculaire, quelque chose que les gens pouvaient admirer. Ils ont oublié la leçon de Christ. D'abord, exercer la foi, ceci est essentiel. Deuxième point, Christ est venu pour un but céleste et non pas terrestre. C'est là simplement un exemple. Et une application même de ces choses basiques. certains chrétiens individuellement, s'ils peuvent se le permettre, achètent la maison la plus belle des voitures, et ils ont un style de vie si élevé, qui n'est pas modeste ou raisonnable, mais luxueux, et ils sont dans l'erreur, parce que nous ne sommes pas là pour vivre une vie splendide et pour être des gens importants sur cette terre, mais nous devons rassembler les élus pour la gloire céleste, pour soutenir l'œuvre de l'Évangile et répandre l'Évangile. Premièrement, la foi doit toujours être exercée. Deuxièmement, nous devons toujours garder à l'esprit l'objectif céleste. Ceci est important. Troisième point, ne perdez jamais de vue que l'œuvre de Christ est essentielle en toute chose, sa souffrance, sa mort à la croix du calvaire. Chaque prédication d'évangélisation doit parler de la croix du calvaire. Ceci est essentiel et le point central. Et régulièrement, nous nous rassemblons pour la Sainte Cène comme ce matin. C'est là le rocher sur lequel nous nous tenons. C'est le cœur de toute chose. Quatrième point, qui est Christ ? N'oublions jamais qui est le Seigneur, notre Sauveur, Dieu éternel, tout-puissant, égal au Père. Nous n'oublions jamais qui il est. Ensuite, nous pouvons être utilisés pour l'œuvre du Seigneur. Au verset 12, et je conclus avec cela, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Ces miracles de guérison faits par les disciples dans les premières années de l'Église chrétienne, dans ces années où l'Église a été fondée, ce sont là des miracles pour authentifier les disciples. Les Juifs savaient en particulier qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité, que leur témoignage était vrai. Ils étaient capables d'accomplir même des guérisons. Bien sûr, ces guérisons ont pris fin à ce moment-là. En ce moment, les guérisons sont simplement une réponse aux prières. Il n'y a pas de puissance, de capacité individuelle, parce que c'était là l'œuvre des apôtres. Il fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Et ces grandes œuvres continuent de nos jours. Quelles sont ces grandes œuvres ? Elles sont spirituelles. Des guérisons spirituelles, des conversions et la conversion du monde. Christ a œuvré dans son ministère, même si les non-juifs ont été bénis, mais Christ a œuvré parmi le peuple d'Israël et les disciples, en dehors, plus loin, parmi les Samaritains et parmi le monde non-juif également. De plus grandes œuvres, l'Église sera étendue de manière internationale dans toutes les nations sur cette terre et les gens seront convertis. De plus grandes œuvres que celles-ci seront faites, des œuvres de conversion parmi les Juifs et les non-Juifs, parce que je vais vers mon Père et ce que vous demanderez en mon nom, en relation avec l'œuvre de la mission, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ne faites pas l'erreur de prendre ces deux versets, versets 13 et 14, en dehors de leur contexte. Et imaginez que vous pouvez demander quoi que ce soit que vous désirez ou que vous voulez, que vous souhaitez. Cette grande promesse qui nous assure de la réponse à nos prières est donné dans le contexte de l'œuvre de Christ et de la mission. C'est pour le salut des âmes, pour la mission, que cette promesse a été donnée et elle s'applique à cela. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, alors que vous faites ces grandes œuvres de la mission de Christ. Ce sont là les quatre remèdes que nous avons vus pour les limites des disciples, la nécessité d'exercer la foi, garder l'objectif divin à l'esprit. C'est une mission céleste, l'œuvre de Christ, sa souffrance, sa mort et son offrande, lui qui a offert sa perfection, sa justice et qui il est entièrement Dieu et homme égal au Père. J'ai commencé en disant que ce texte est si logique et ordonné et si bien organisé. C'est là l'instruction patiente de Christ pour ses disciples. Et ceci est raconté d'une manière parfaite par l'apôtre Jean dans son évangile. Et ensuite, il continue et il explique plus par rapport à cette instruction dans la chambre haute. Appliquons ceci à nos cœurs ce matin.